Bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
On a appris hier que le président Bouteflika, le président algérien, renonçait finalement à briguer un cinquième mandat. Réaction de la France par la voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Je salue la déclaration du président Bouteflika par laquelle il annonce ne pas solliciter un cinquième mandat et prendre des mesures pour rénover le système politique algérien. C'est une réaction que l'on pourrait qualifier de prudente, voire de minimaliste. Est-ce que vous auriez plus à dire ou autre chose à dire ?
Je comprends d'abord complètement que le ministre des Affaires étrangères soit soucieux de, voilà, au regard de l'histoire de nos deux pays, puis au regard de ce qu'est la liberté de l'Algérie, de ne pas s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. Mais en revanche, il a aussi raison de saluer ce retrait. Je crois que ça correspondait à une demande forte du peuple algérien. On a vu ces manifestations depuis maintenant plusieurs semaines qui amenaient énormément de monde dans les rues en Algérie, qui se sont très très bien passées, des manifestations pacifiques, assez exemplaires à tout égard.
Oui, mais justement, j'allais vous le dire, en fait, il y a peut-être même des leçons à tirer, non? Parce qu'il y a eu des journées de manifestations massives, il y a eu aucun blessé, aucune violence, ni d'un côté, donc ni du côté des manifestants, ni du côté des forces de police. Et on a même vu des jeunes qui, à la fin des manifestations, nettoyer, avec des sacs poubelles pour nettoyer derrière.
Tout à fait. Donc on en est très loin en France. Ouais. En plus, les situations sont quand même strictement incomparables, parce que là, on avait des manifestations pour un pouvoir qui est en place maintenant depuis plus de 20 ans. Et donc, je crois que la demande du peuple algérien, c'est, on veut savoir qui nous gouverne. On voit bien que notre président n'est plus en capacité de le faire. On veut pouvoir redire notre mot sur le destin de notre pays. Et en cela, il faut saluer cette décision de retrait du président Bouteflika. Maintenant, il faut aussi souhaiter que des élections se tiennent dans des délais qui sont de nature à faire écho à cette demande du peuple algérien.
Oui, et peut-être que les choses se clarifient, parce qu'en fait, c'est vrai que pour l'instant, les conditions de ce renoncement ne sont pas très claires. On ne sait pas à quelle date pourraient avoir lieu les élections, et ça n'est pas très différent de ce qu'avait proposé Bouteflika il y a quelques jours, en disant si je suis élu, je ne resterai pas plus d'un an et j'organiserai de nouvelles élections auxquelles je ne serai pas candidat.
Il faut que les choses se clarifient. Encore une fois, ça correspondait à une demande très forte des Algériens, donc il faut que les choses avancent. Et puis pour la France, il y a aussi là-dedans quelque chose qui est porteur d'espoir pour l'avenir. On a une histoire forte avec l'Algérie, une histoire parfois douloureuse. Moi, je suis convaincu qu'on a aussi un avenir rayonnant à avoir avec ce pays, avec l'ensemble des pays du nord de la Méditerranée. Il y aura à Marseille, au mois de juin, un sommet des deux rives, entre des pays d'Europe du Sud et du nord de l'Afrique, pour voir comment on peut amener plus de coopération entre nos différents pays, pour voir comment les sociétés civiles algériennes, françaises, marocaines, espagnoles et des 10 pays concernés peuvent avancer ensemble et construire leur avenir ensemble. Moi, je suis convaincu que la Méditerranée est une formidable opportunité pour l'Europe comme pour le nord de l'Afrique.
La République En Marche a présenté dimanche lors d'un meeting à Chartres ses propositions de réforme dans le cadre du grand débat national. Le délégué général du parti, Stanislas Guérini, a dit qu'il souhaitait que la République En Marche soit l'aiguillon de la majorité. C'est une formule qui n'est pas nouvelle, mais enfin bon, qu'il a employé. Est-ce que cet événement pourrait être en quelque sorte l'acte de naissance politique de la République En Marche en tant que parti qui a jusqu'à maintenant eu un peu du mal à exister ?
Ou alors de renaissance, peut-être, puisque c'est un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment. Notamment, vous savez que c'est le nom du mouvement et qu'on veut créer pour les Européennes, une renaissance en Europe, donc une renaissance pour la République En Marche. Non, moi, ce que je crois, je plaisante en disant cela, mais ce qui est vrai, c'est que la République En Marche, c'était, depuis l'élection, ne s'était pas forcément mué en mouvement politique, était resté un peu cet formidable outil qui avait permis de construire ce projet, qui avait permis ensuite d'accompagner la mise en œuvre du projet qu'on avait décidé avec les Français pendant la campagne. Et puis maintenant, on voit bien qu'on entre dans un deuxième temps où on aura plus que jamais besoin d'un mouvement politique, où on aura plus que jamais besoin d'alliés dans la société pour continuer à co-construire un certain nombre de choses indispensables pour le pays, puis aussi pour les mettre en œuvre. C'est peut-être de ça qu'on a manqué dans la première partie du mandat. On a mis en œuvre un certain nombre de grands projets qu'on avait promis aux Français, mais sans forcément... ils ont été votés à l'Assemblée nationale, enfin, ils ont été préparés par le gouvernement, votés à l'Assemblée nationale, mais après, qui se les approprie, qui les accompagne sur le terrain. La République En Marche, c'était peut-être pas suffisamment mieux en mouvement politique pour le faire. On manquait peut-être d'alliés aussi dans le monde syndical, les intellectuelle, associative pour avancer dans cette direction. Et là, il est extrêmement important que, avec ces propositions qui ont été faites à Chartres, moi je suis en charge du débat d'idées avec Marlène Schiappa au mouvement, avec la volonté maintenant de vraiment transformer notre mouvement en organisation politique qui va pouvoir faire remonter aussi un certain nombre de choses au gouvernement ou au Parlement, on est dans un nouveau temps et c'est à mon avis totalement indispensable.
Aiguillon de la majorité, donc pour reprendre l'expression de Stanislas Guérini, ça suppose un certain degré d'indépendance par rapport à celui qui est d'une certaine manière le chef naturel du parti, qui est le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut imaginer que les propositions qui ont été formulées par Stanislas Guérini, donc alourdir notamment l'impôt sur la fortune, réindexer les retraites, travailler un jour de plus pour financer la dépendance, est-ce qu'on peut imaginer que tout cela n'a pas été présenté à Emmanuel Macron pour validation ?
Qu'il y ait des discussions avant, pendant, après, c'est quand même bien normal pour la principale formation politique de la majorité, dont Emmanuel Macron a été le fondateur, comme chacun sait. Après, je ne pense pas que l'ensemble des mesures aient été vues. Il y a des choses là-dedans qui représentent vraiment l'ADN de ce mouvement. On revient aux fondamentaux du macronisme. Quand on dit, par exemple, qu'il faut augmenter l'impôt sur la fortune immobilière ou plafonner les allocations chômage à partir d'un certain niveau, c'est cette idée qu'il y a toujours eu de se dire que tout ce qui correspondait ou qui pouvait correspondre à des rentes qui n'étaient pas forcément utiles pour le reste de la société, pour investir dans l'économie, pour protéger les plus faibles, devait être plus taxé. Quand on invente aussi des choses sur la transition écologique qui ne soient pas finalement punitives, mais où on essaie plutôt d'innover, cette proposition de se dire que chaque Français devrait avoir un système de location de voitures à moins de 50 euros par mois et de voitures non polluantes. Là aussi, on est bien dans ce qui fait le cœur de la République en marche, où quand on veut plus de démocratie, proposition de loi d'initiative citoyenne, 1 million de Français signent une proposition de loi, elle doit être débattue par des Français tirés au sort et par le parlementaire. Tout ça, c'est l'ADN du macronisme, tout ça, c'est l'ADN de ce qui a fait qu'on a construit ce mouvement, et donc c'est absolument essentiel qu'on puisse faire ces propositions aujourd'hui dans le grand débat.
Vous avez beaucoup travaillé, Aurélien Taché, et réfléchi sur le sujet de la laïcité. C'est une question qui ressurgit régulièrement dans l'actualité, dernièrement avec le fameux hijab de Décathlon. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir, en quelque sorte, gravement discrédité votre parole sur le sujet en faisant, il y a quelques jours, ce parallèle entre le hijab pour les petites filles et le serre-tête des jeunes filles de familles catholiques ?
Écoutez, je ne l'espère pas, puisque dans cette émission auquel vous faites référence, j'ai dit beaucoup d'autres choses sur ce sujet. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de dire depuis que la comparaison sur avec le serre-tête était absolument malvenue. Enfin voilà, c'était un exemple hâtif. Mais enfin, j'espère que chacun me fera crédit, au contraire, d'avoir depuis longtemps pris des positions assez claires sur ce point, et d'y avoir beaucoup réfléchi, de continuer à le faire, parce que je pense que c'est un des sujets essentiels aujourd'hui qui se pose à la France. Plus que la laïcité elle-même, d'ailleurs, le rapport des Français à la religion, le rapport des Français à l'altérité, finalement, puisque c'est aussi beaucoup de l'islam qu'on parle, c'est pas et qui fait beaucoup débat dans notre pays, plus qu'ailleurs. Je crois que la France a un certain nombre de questions à se poser sur son identité. Est-ce qu'elle accepte d'avoir justement d'être plurielle, d'être faite de plusieurs cultures, de plusieurs religions, et donc, si cette comparaison était malvenue, je veux réaffirmer à votre antenne que la liberté de croire ou de ne pas croire, d'ailleurs, que je défends, elle s'applique à tous, que mon propos n'était certainement pas d'offenser les catholiques qui doivent eux aussi pouvoir croire et être respectés dans ce pays, et il s'agissait simplement d'une comparaison hâtive.
Il y a une forme d'hystérie sur ce sujet en France ?
Il y a malheureusement, effectivement, dès qu'il est question de la pratique de l'islam en France, souvent beaucoup de crispation, voire d'hystérisation en effet. Il faut encore une fois prendre toute la mesure de du danger que peut représenter l'islam politique dans certains quartiers ou autres, et lutter contre. Mais il faut aussi redire que pour 80 ou 90% des musulmans français, il y a simplement la volonté de vivre en paix, de pouvoir aimer à la fois leur pays et leur religion. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi je ne céderai pas, de défendre ces Français-là qui méritent l'égalité avec les autres Français.
Merci Aurélien Taché. Bonne journée.
Merci à vous.